France Culture.
Heure du journal de la rédaction. Bonsoir Lou Momège.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Un socle commun brisé, sans les Républicains, ni l'UDI, ni Horizon. Avec qui Sébastien Lecornu peut-il constituer un gouvernement? Le casse-tête se complexifie pour le Premier ministre fraîchement renommé. Ça ne tient plus, le cri de colère du milieu associatif qui manifestait aujourd'hui, des associations à bout de souffle, faute de subventions. Emmanuel Macron, lui, se rendra en Égypte pour soutenir le plan de paix entre Israël et le Hamas lundi. Un plan qui prévoit notamment l'échange des derniers otages israéliens contre les prisonniers palestiniens. Et puis le rappeur Booba s'offre la Défense Arena pour 3 soirs, une plume aussi aiguisée que provocante et qui n'est pas sans rappeler certains des plus grands auteurs. De plus en plus de partis lui tournent le dos, mais il doit construire un gouvernement qui ne fâche personne. La mission de Sébastien Lecornu, renommé hier Premier ministre, semble presque impossible. Le RN et la France Insoumise censureront quoi qu'il arrive. Le PS lui menace de censurer si la réforme des retraites n'est pas suspendue. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Et Nicolas, alors ce socle même, le socle commun sur lequel Sébastien Lecornu comptait s'appuyer, est réduit aujourd'hui à peau de chagrin.
Oui, sur qui Sébastien Lecornu peut-il s'appuyer pour gouverner? Eh bien, au sein des partis, pas grand monde, y compris dans sa majorité. À la mi-journée, malgré les divisions internes et la volonté de nombreux députés LR qui souhaitent une participation au gouvernement, quitte à accepter la suspension de la réforme des retraites, eh bien, les Républicains ont refusé de participer à un gouvernement. C'est ce que souhaitait le président du parti, Bruno Retailleau. La réunion du bureau national a été très tendue ce matin. Les LR ont promis, au bout du compte, un soutien texte par texte, et donc à minima envers Sébastien Lecornu. On peut penser par exemple que LR maintiendra son refus de la suspension de la réforme des retraites. Autre morceau du socle commun qui se délite, l'UDI, le parti fort de nombreux sénateurs et de quelques députés, a décidé également de ne pas faire partie du gouvernement. À vrai dire, il y a une semaine, l'UDI avait déjà annoncé ne plus faire partie du socle commun, furieux de ne plus avoir de ministre dans le gouvernement Lecornu 1, son président n'ayant pas été non plus consulté durant la formation du gouvernement. Horizon, le parti d'Édouard Philippe n'a pas pris de décision, mais prend également ses distances. Le parti envisage également un soutien sans participation. Il a décidé d'attendre ce que va proposer Sébastien Lecornu. Tout dépendra de l'orientation que donnera le Premier ministre concernant la réforme des retraites. Édouard Philippe, candidat à la présidentielle, est contre tout retour en arrière. Voilà Sébastien Lecornu largement contraint par ses propres alliés. Et 36 heures pour procéder à un vrai renouvellement, c'est très peu. Et s'il y arrive, l'équation des retraites reste très compliquée. Sur sa gauche, le PS promet la censure, vous l'avez dit, si la réforme n'est pas suspendue.
Merci Nicolas Ballu, service politique de France Culture. Sans gouvernement stable depuis plusieurs semaines, impossible pour l'instant de voter le budget 2026. Un budget déjà étriqué cette année qui prive le milieu associatif de subventions et fait craindre notamment des licenciements. Face à une situation intenable, le secteur se mobilisait aujourd'hui dans plus de 70 villes en France pour réclamer un sursaut politique. Mathilde Cariou a rejoint le rassemblement à Paris.
Pas de dignité low cost, peut-on lire sur la pancarte des enfants du canal, association d'aide aux personnes mal logées.
On a de plus en plus de monde, on a de moins en moins d'argent.
Samira El Alaoui, la présidente, n'a toujours pas reçu la subvention du mois d'octobre.
Ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir payer les loyers, je ne vais pas pouvoir payer les charges, je ne vais pas pouvoir payer les prestataires. Ma priorité, c'est les salaires.
Même discours dans le secteur médico-social. Aude Bourdin est salariée chez APF France Handicap. Faute de budget, l'association a dû renoncer à son service d'aide à domicile.
On est obligé de les transmettre à d'autres et on ne sait pas s'ils accompagneront de la même manière des personnes notamment pluri- ou polyhandicapées qui ont un handicap le plus lourd que d'autres.
APF vient par ailleurs de subir un plan social et redoute les coupes budgétaires à venir. Sans ministre, nous dit Aude, c'est encore pire.
Forcément, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur avec qui discuter de toutes ces problématiques-là, on n'a pas de budget, on ne sait pas où on va.
Nous aussi, conclut-elle en blaguant, on a Lecornu, un tiers des associations françaises à moins de 3 mois de trésorerie en réserve.
Reportage signé Mathilde Cariou. Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour soutenir l'accord de paix entre Israël et le Hamas. Accord qui coince encore, pas question de se désarmer, martèle le Hamas. C'est pourtant ce que prévoyait le plan de Donald Trump. Le Hamas qui a d'ailleurs jusqu'à lundi pour commencer à restituer les derniers otages israéliens. Les prisonniers palestiniens pourront ensuite à leur tour être libérés. Ils sont quelque 250 condamnés à perpétuité pour des attentats anti-israéliens israéliens et 1700 arrêtés après le 7 octobre. Marie-Pierre Véraud, l'État hébreu a commencé à préparer ses libérations.
Depuis la nuit dernière, les autorités israéliennes rassemblent les prisonniers palestiniens dont le nom a été accepté par l'État hébreu et qui doivent être libérés. Il a fallu les récupérer dans différentes prisons, puis ils ont été séparés en deux groupes, chacun transféré vers un centre d'expulsion, celui de Ofer, en Cisjordanie occupée, pour les détenus qui pourront revenir à Ramallah, le second, Tziot, dans le sud d'Israël, pour ceux qui seront renvoyés à Gaza ou en Égypte. Et pour les familles de ces centaines de détenus palestiniens, c'est une attente fébrile qui a débuté en Cisjordanie. Certaines ont déjà reçu des appels de leurs proches. Ils sont sur les listes validées par Israël. Elles se préparent à les accueillir. Un processus toujours très long. Tant qu'elles ne les serreront pas dans leurs bras, elles n'y croiront pas vraiment.
Marie-Pierre Véraud à Ramallah, en Cisjordanie pour France Culture. Après un cessez-le-feu à Gaza, Donald Trump peut-il négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie? C'est en tout cas ce que souhaite Volodymyr Zelensky après un appel avec son homologue américain. Le président ukrainien l'a exhorté d'arrêter la guerre menée par la Russie. Une délégation ukrainienne se rendra d'ailleurs aux États-Unis en début de semaine prochaine pour discuter de possibles sanctions sur la Russie et d'un soutien de la défense ukrainienne. À Madagascar, un contingent de l'armée appelle à la désobéissance depuis une quinzaine de jours, le pays est secoué par des manifestations qui dénoncent les coupures de courant et d'eau et contestent de plus généralement le pouvoir malgache. Les autorités répliquent avec une violente répression qui a fait au moins 22 morts. Alors que les contestations se poursuivent aujourd'hui, l'un des contingents militaires a demandé à ses soldats de ne pas tirer sur la foule. Certains militaires ont même rejoint les manifestants. 18h06 sur France Culture et c'est une première dans le secteur viticole. Le meilleur vin du monde n'est plus français, non. Il est désormais anglais et il s'agit même d'un mousseux anglais. En pleine saison des vendanges, Gaël Joly est allé découvrir le breuvage qui a détrôné le champagne français sur le domaine de Knightimber dans le sud de l'Angleterre.
C'est ici où on fait le pâturage de nos raisins. Aujourd'hui, on a réception de chardonnay et pinot noir.
Dans les cuves, le raisin vient juste d'être ramassé. Brad Greatrix, le vigneron du domaine de Knightimber, fait la visite.
Vous avez osé faire un vin meilleur que le champagne ?
Oui, c'est vrai. Le International Wine Challenge à Londres ont décidé qu'une bouteille effervescente de Knightimber est le meilleur effervescent du monde.
Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce mousseux anglais ?
On arrive à garder tous les arômes qui viennent de la boulangerie. Alors on a croissant, brioche et on ajoute ça avec les arômes de fruits qui viennent des vignes, ça donne quelque chose d'assez spécial.
En quelques années, les vins mousseux anglais se sont fait une place parmi les plus grands. Ils séduisent de plus en plus. On trouve même le Knightimber sur la table de la famille royale.
Oui, c'est vrai. Quand on prépare les bouteilles, on dit peut-être cette prochaine bouteille qui part de notre cuverie va être sur la table du roi d'Angleterre.
Avec un total de 4800 hectares, la surface du vignoble anglais reste encore modeste, à peu près 1% du vignoble français. Et la production ne cesse d'augmenter.
Gaëlle Joly, correspondante de France Culture au Royaume-Uni. Et puis lui enchaîne une série de 3 concerts entamés hier à Paris, la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe. Booba, très certainement le rappeur français le plus influent, continue d'étonner par sa longévité. 48 ans pour 30 ans de carrière. Entre provocation et une plume aiguisée, Booba est devenu un véritable objet culturel. Décryptage de Faouzi Trita.
Il y a au moins 2 Boobas, celui des débuts, le rappeur de Boulogne-Billancourt, la rue, la drogue, le bitume, la loi du plus fort.
Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, Choco BN, salle noire, ma génération.
Et le Booba d'aujourd'hui, celui de Miami, argent, luxe, pouvoir, opulence. Un dénominateur commun qui rassemble ses publics, la marginalité. Hugo Juli écrit une thèse sur Booba et la violence.
Se mettre en scène comme un dealer, un gangster et tout. Puis une fois qu'il avait 40 ans et qu'il vivait à Miami, cette marginalité-là n'est plus possible parce que personne n'y croirait. Et du coup, il s'est réinventé, chef d'une sorte de complosphère. La marginalité d'Internet, quoi.
Ses prises de position sur son puissant compte X à 6,5 millions d'abonnés pullulent de théories fumeuses autour du vaccin contre le Covid. Et son combat contre les influenceurs malhonnêtes a entretenu son côté anti-système. Une transgression présente sous sa plume qui lui vaut d'être comparé à des immenses auteurs de la littérature française.
Il va aussi dire du mal des rappeurs, dire du mal de la banlieue, dire du mal des pauvres et faire l'apologie de Bernard Arnault. Enfin, on aime bien qu'il nous fasse mal et on aime bien qu'il mette en danger les valeurs qu'on aime, quoi. Et là-dessus, on pourrait le mettre un peu en commun avec Céline. Dans Céline, il y a un petit peu de ça aussi. On sent quelqu'un qui est agressif, mais plutôt avec le papier, alors que Booba sera plutôt avec le micro.
Booba cultive aussi la figure du parrain, très populaire dans le rap, comme la bagarre d'Orly avec Caris en 2018. Une bagarre qui a fait l'objet d'une exposition à Paris l'an passé.
Fawzi Trita, le temps demain, grand soleil sur toute la France, entre 11 et 21 degrés dans la matinée et même jusqu'à 25 dans l'après-midi dans le sud. C'est la fin de ce journal. Merci à Caroline Beneteau à la réalisation et à Anthony Thomasson à la technique.